En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bien donc, nous reprenons. Avec l'exposé du grand rabbin Corsia sur les suicides, je vais vous demander d'essayer de respecter la demi-heure de présentation. Sinon, on va encore terminer à des heures pas possibles. D'accord. D'accord. Mais vous ne pressez pas trop non plus. Nous ayons plaisir de vous entendre suffisamment. Bien, je vous cède immédiatement la parole, justement pour ne pas perdre de temps.
Ah, si c'est une mitzvah, si c'est le cas, c'est formidable. Bien, c'est un peu... C'est même compliqué de parler devant vous, notamment sur le suicide des militaires, parce que on a le spécialiste sur les suicides. Mais la question du suicide dans les militaires, elle a toujours été une forme de tabou, peut-être encore plus grand que le suicide en général dans la société. C'est vrai que les militaires sont dans la classe d'âge et dans la typologie, puisque les armées sont encore masculines à 80%, donc il y a 20% de féminisation dans les armées, ce qui veut dire que par nature, cette classe d'âge et les hommes sont plus atteints par le suicide, mais en réalité, si on était honnête, on pondérerait tous les chiffres que je vais pouvoir vous donner, enfin je vous en ai quelques-uns, très peu en réalité, on les pondérerait par quelque chose d'incroyable que je n'ai jamais vu dans la littérature sur les suicides dans les militaires, c'est qu'il y a la visite d'incorporation. Or, qui dit visite d'incorporation dit ce qu'on appelle un CIGICOP, docteur.
Oui.
Voilà. Et dans CIGICOP, oui. Le CIGICOP, c'est une classification qui mesure votre acuité visuelle, votre capacité à mouvoir les membres inférieurs, les membres supérieurs, etc. Le corps. Et le P de CIGICOP, c'est la psychologie. Et donc, c'est le fameux P4 qui fait qu'on était réformé, qu'on était P4. Mais le P doit donc permettre de filtrer tous ceux qui ont des problèmes. Donc en fait, un biais énorme que je n'ai jamais vu traité, vraiment, je suis surpris, dans la comparaison des chiffres, c'est que on ne peut pas comparer une population générale avec des gens qui sont déjà atteints de fragilité psychologique, psychiatrique, avec une population qui est censée être filtrée. Certes, on peut développer quelque chose qui n'est pas détecté, enfin quand même, le biais est énorme. Si je compare, par exemple, avec les chiffres globaux en France, le taux moyen de suicide est de l'ordre de 19 pour 100 000 personnes, taux moyen. Dans les armées, l'armée terre est à 19 pour 100 000, au même niveau que l'armée nationale actuellement. L'armée de l'air est à 14 pour 100 000, la marine à 13 pour 100 000 et la gendarmerie à 26 pour 100 000. La disponibilité immédiate de l'arme de service pour les gendarmes est un facteur qui explique beaucoup.
Un petit peu le micro parce que ça grésille un petit peu.
Beaucoup plus par un. Mon micro est caché.
Non, peut-être le déplacer légèrement. Vous ne parlez pas trop près, je pense, en fait.
Donc, je voulais voir ce qu'il en était pour. Qu'est-ce que le suicide remet profondément en cause.
Non, mais vous pouvez la. Ouais.
Voilà, ça ira bien. Pardon. Je me suis penché sur la question de savoir qu'est-ce que le suicide remettait profondément en cause dans l'éthos militaire, dans ce qu'est le monde militaire, pour causer un tel traumatisme. Mais j'ai cherché dans les archives de la Défense, qui est accessible sur cette question, et au service historique à Vincennes, on trouve les premières véritables études au moment de la guerre de 14. Où il y a un basculement des autorités militaires sur... là, il y a un problème.
Oui, mais ça, c'est rabbinique, ça.
Non. Il y a, à partir du début de Shabbat...
Oui, à mon avis, là, c'est l'appel.
Non, c'est pas grave, on va marcher avec ça. On trouve un basculement des autorités militaires sur le rejet du suicide, qui est perçu, non pas comme une simulation, mais comme une volonté de fuir, et donc traité comme une désertion. Avec ce paradoxe incroyable... que les militaires qui essaient de se suicider et qui n'y arrivent pas, il y avait un problème technique, par exemple. Le Lebel, qui est le fusil de la Première Guerre mondiale, est extraordinairement long. Et donc, vous ne pouvez pas vous suicider vous-même avec votre fusil. Et donc, ils ont trouvé 32 personnes mortes avec une balle dans la tête. Et il a fallu qu'un médecin fasse ressortir les cas, parce qu'au départ, il pensait que c'était un sniper allemand. Et en fait, il découvre que les 32 cas ont tous la chaussure manquante et le pouce, le pied sans chaussette. Et en fait, le soldat se faisait utiliser sa détente avec son pouce, le pouce de son pied. Là, il y avait la distance. Et donc là, ils se sont dit à quelque chose. Mais le paradoxe, je vous dis, c'est terrible. Ceux qui rataient leur suicide étaient fusillés. Parce que le suicide équivalait à la désertion. Mais en réalité, en cherchant bien dans les archives, c'est incroyable. Il faut que je vous raconte ça, parce que c'est incroyable en termes de... Vous arrivez aux archives à Vincennes. J'ai une carte accréditive, je suis militaire. J'ai une carte de cette bibliothèque. Et je demande ce qu'il y a sur le suicide. On me donne une référence. Je vais voir le colonel et je lui dis, bon, pas à moi. Viens, on voit un peu ce qu'il y a ensemble. Et là, j'ai eu des documents terribles. J'ai même demandé des dérogations pour avoir accès à des documents dont je vais vous parler, que j'ai obtenus. Il y a énormément de choses. Napoléon, enfin Bonaparte à l'époque, fait détruire une aubette. Alors ça, c'est rapporté, c'est un classique. Fait détruire une aubette aux Invalides, une petite casemate, dans laquelle 12 personnes se sont suicidées d'affilée parce que c'est un suicide répétitif. Donc il détruit et puis il n'y a plus de suicide. Donc on voit, et puis il y a un texte de Longuet de 1891 qui étudie toutes les... Donc antérieur à la guerre de 14... qui étudie la question des suicides dans les armées. Qu'est-ce que remet en cause la question des suicides ? Première chose étonnante, et qu'on comprend beaucoup mieux aujourd'hui avec l'hyper-judiciarisation, et y compris de l'armée, qui est responsable ? Et donc, moi, j'ai étudié les comptes rendus du capitaine qui raconte, le soldat un tel est parti, il est parvenu, on l'a retrouvé pendu. Bon. C'est pas lié au service. L'obsession. L'obsession contemporaine. J'ai sur moi des documents. Je voulais vous les montrer tout à l'heure, mais bon, je les anonymiserai peut-être pour le compte rendu. Et je vous les montrerai. Je vous les donnerai. On a une fiche, actuellement, avec 4 cases en carré. Pendant les heures de service, hors les heures de service, en tenue, pas en tenue. L'idéal étant, en dehors des heures de service, pas en tenue. Bon. Et encore mieux, en dehors de la caserne. Alors là, on est archi tranquille. Donc l'idée majeure de tous ces rapports, mais de toujours, c'est pas lié à nous. Et j'ai trouvé un rapport, j'ai honte de dire, un rapport d'un capitaine qui écrit avec beaucoup de courage pendant la guerre de 14. C'est scandaleux de dire que ce n'est pas lié au service, c'est quand même nous qui le mettons dans la boue, dans les tranchées, dans une horreur des bombardements, c'est notre faute. Et, docteur général, j'ose vous dire que même le fait que l'armée en tant qu'institution, concède complètement au service médical la gestion des suicides, c'est une façon de dire ce n'est pas une affaire de commandement. Mais on a repris la main un petit peu maintenant, et on voit bien, là aussi j'ai sur moi des documents, qui montrent que le haut commandement des armées se préoccupe maintenant des suicides, non pas parce qu'il s'en préoccupe, je vais vous expliquer pourquoi, mais parce qu'il est maintenant mis en cause comme responsable. Et donc, il a besoin d'en savoir et de lancer des politiques de prévention, c'est-à-dire de ne plus considérer que, puisque les médecins s'en occupent, l'armée en tant que structure n'a plus à s'en préoccuper. Il faut considérer donc l'armée comme une organisation normale et appliquer les règles habituelles de prévention des suicides par augmentation du lien social. C'est la technique française, c'est la technique américaine. Mon général, vous parliez tout à l'heure, c'est très intéressant, des Américains qui ont mis en place le suivi immédiat au front des stress post-traumatiques, mais les Américains ont une autre méthode incroyable que nous ne pourrions pas appliquer dans nos forces. Si quelqu'un fait une tentative de suicide ou simule les suicides, alors c'est un peu compliqué, en tout cas a des conduites auto-agressives, on le met à 15 km du front, on l'habille en orange comme les gens à Guantanamo, même chose, on lui fait faire des activités terribles, il fait les nettoyages, les machins, les trucs. 15 jours après, croyez-moi, il veut retourner au front. Parce qu'il y a un enjeu, c'est un enjeu important qu'on voit apparaître déjà à l'époque, sur le corps du soldat ne lui appartient pas. Et donc, toute atteinte au corps du soldat est une atteinte à l'armée. Ça, c'était intéressant, votre question. Le corps de l'ennemi n'est pas un humain, c'est un outil militaire. Donc, c'est quelque chose de terrible. Donc, une atteinte au corps est une agression au corps social de l'armée. Mais je crois que l'atteinte fondamentale du suicide, et pourquoi c'est une question particulière dans les armées, c'est que toute l'idée de l'armée est construite sur la fraternité des armes. Hier, vous disiez, on meurt avant tout pour le camarade. La fraternité des armes, c'est pas un vain mot, c'est vraiment quelque chose de fort. Donc quelqu'un qui se suicide, c'est une agression en sentiment de fraternité, ça veut dire qu'on n'est pas aussi fraternel qu'on veut bien le dire, puisqu'on n'a pas détecté son comportement. Et donc, c'est une remise en cause du système qui nous fait tenir ensemble. Et je voudrais vous donner un exemple qui est terrible. À Kaya, qui est l'hôpital militaire qui était sur l'aéroport de Kaboul, il y a un mur où figurent tous les morts de l'opération. Est-ce qu'on met sur ce mur le soldat du service de santé qui s'est suicidé? Ils ont conclu que oui, parce qu'ils ont estimé que c'était le stress auquel on le soumettait qui était cause de cela. Et donc il est mort, enfin, des conséquences de la guerre. Mais c'est, oui, c'est une question qui est contemporaine, que vous avez dû partager lorsque vous étiez à Bordeaux. En tout cas, ce tabou relatif du suicide dans les forces est lié à la difficulté de mettre en place un plan de prévention qui tienne compte des fragilités ponctuelles ou structurelles des femmes et des hommes supposés très forts. Un soldat est fort. Et ce que vous dites est très juste aussi, c'est que les soldats n'osent pas aller voir un psy, parce que vous venez voir un psy, en gros, vous n'êtes pas un soldat. Et puis, si vous n'êtes pas un soldat, on ne vous confiera pas une mission, on ne vous enverra pas la prochaine fois faire des vols. Donc, vous n'êtes pas apte. Et si vous n'êtes pas apte, c'est terrible pour un soldat de ne plus être apte. Donc, il y a une problématique particulière dans les forces, c'est que la survalorisation de la force du soldat, de la fraternité des soldats, et de cette idée de fraternité, permet de désenchanter, en fait, ça fait, on désenchante le concept de fraternité. Donc, celui qui se suicide attaque tous les autres. Une des choses qui m'a stupéfaite quand je vois les suicides, docteur, vous avez dû connaître ça, on ne parle pas de suicide, il n'y a pas de suicide dans les armées. Je vais vous donner un cas concret que j'ai suivi. On m'appelle sur une base aérienne, pas loin de Paris, 2 heures de route, je fonce et j'arrive au moment où le gendarme, le capitaine de gendarmerie, remet à son colonel son rapport, hein, le militaire, un tel, s'est pendu. Donc pendaison. Un rapport de gendarmerie, tout simple. Pendaison. Le colonel me dit, terrible, je dois faire un rapport à Paris, je vais pas marquer ça, c'est affreux, et il met suicide. Le document arrive à Paris. Comme on sait que je travaille sur cette question, je retrouve le document que l'état-major me donne, et sur le document d'état-major, il y a marqué « autolyse ». Ce qui est la même chose, sauf que faites l'essai, allez dehors et demandez aux gens « qu'est-ce que c'est suicide ?» ils vous disent, demandez-leur « qu'est-ce que c'est autolyse ?» ils vous disent que le prochain centre de contrôle de votre voiture est à côté, mais personne ne sait que « autolyse », c'est suicide. Non, pardon. Et cette sorte d'édulcoration du mot est une façon de parler de quelque chose sans en parler, sans avoir la violence du mot. Auto. Oui, auto, c'est oxui. Voilà. Auto, c'est en grec.
Enfin, c'est un terme utilisé même par les psychiatres américains.
Oui, mais.
On l'a utilisé beaucoup, donc c'est une tentative d'autolyse.
Oui, mais c'est une façon de dire quelque chose sans le dire. C'est très intéressant, c'est que les mots et les non-mots décrivent comment on perçoit une réalité. On n'a plus de clodo en bas de chez nous. Nous n'avons que des SDF, ce qui est une abstraction qui nous permet de ne pas dire la violence de quelqu'un qui n'a pas de domicile. Mais ça, c'est très intéressant. On parle d'autolyse, et alors qu'on ne parle pas entre médecins. À la limite, entre médecins, ça se comprendrait, mais entre chefs, ils parlent. Tu as combien de taux d'autolyse chez toi? Tu as une autolyse? C'est quelque chose d'étonnant, la négation du suicide par la non-utilisation du mot. Vous en avez parlé avec les députés américains. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la prévention, mais qui est terrible dans le monde militaire. C'est les Anglais qui ont théorisé cela en appelant ça double tôle. Ils ont constaté que dans la guerre des Falklands, Falklands c'est du côté anglais, Malouines c'est du côté argentin, en tout cas dans les Falklands, ils ont eu 255 morts au combat, notamment une grande partie avec le fameux Exocet qui a tapé le bâtiment anglais. 255 morts. Ils avaient un contingent de 5000 militaires. En gros, 20 ans après, ils ont eu 250 morts par suicide dans ces 5000 vétérans. C'est-à-dire qu'ils ont appelé ça double tôle. La guerre prend une fois son tribut et elle reprend une deuxième fois le même nombre, alors en 20 ans, c'est vrai, par suicide. D'où ce que j'ai proposé au service de santé, de mettre en place un véritable suivi des vétérans, ce qui n'existait pas en France. On n'a pas la masse d'hôpitaux de vétérans que peuvent avoir les États-Unis, par exemple. Tout simplement parce qu'on n'a pas été percuté comme eux par la guerre du Vietnam avec ces cohortes d'anciens qui venaient avec les maladies et les risques sociaux pour eux et pour la société. Dans le monde militaire, la question de l'aptitude est centrale parce que la cohésion, je vous l'ai dit, la solidarité, le projet même militaire se construit sur la notion de groupe. Vous l'avez très bien dit, on meurt avant tout au combat, on risque quelque chose au combat pour ses camarades. Et si on doute de cela, alors on ne s'engage plus au combat de la même façon. Donc la prévention du suicide est faite non pas pour prévenir le suicide, mais pour garantir l'efficacité des forces. Et ça amène une question étonnante, la question, je vous dis, du corps et la question de la propriété, c'est-à-dire de l'engagement du soldat. Quand Durkheim a publié en 1897 son travail sur le suicide, il a donc appliqué les méthodes de sociologie naissante au thème du suicide. Pour lui, le suicide est un fait social. Et c'est ça qui est un peu compliqué chez Durkheim, que vous avez dans votre ouvrage de 75 réédité en 2009 critiqué, c'est que pour lui, ce n'est que social. Et c'est compliqué de nier l'individualité de la personne. On le voit bien parce que chaque cas, et je vais essayer de vous le démontrer dans quelques instants, chaque cas est quand même éminemment différent. Surtout que, honnêtement, dans les armées, on parle de très petits chiffres. C'est pour ça qu'il faut voir les données sur une longue période, parce qu'il suffit qu'il y ait deux suicides pour que les chiffres montent en flèche. Surtout sur une population de 50 000 personnes, par exemple, sur l'armée de l'air. Vous voyez bien ce que donnent deux suicides. On a eu là le cas en décembre dernier, on a eu quatre suicides. En deux mois, tout le monde s'est affolé. Vous savez comment ça peut être. Brusquement, le ministre appelle, qu'est-ce qui se passe? Bon. Comme c'est des petites... Non, mais c'est vrai, c'est des petites masses, des petits chiffres, le moindre... Mais ce sont des histoires. Et quand Durkheim explique que c'est la pression sociale uniquement qui exonère l'individu de sa responsabilité, d'une certaine manière, c'est difficilement acceptable aujourd'hui, surtout dans un monde hyper individualisé. Il y a certes une pression du corps social, comme l'explique Durkheim, dans les armées, mais on ne peut pas expliquer cela. On ne veut pas nier le caractère intime, on ne peut pas. Intime, personnel, individuel, de certains suicides. Mais il faut quand même se pencher sur ce que Durkheim a écrit, et cette typologie est intéressante. D'après Durkheim, certains facteurs diminuent le risque suicidaire. La religion, vous n'en êtes pas d'accord dans votre ouvrage, c'est bonne mémoire, page 400 et quelques. À vue de nez, 406. J'ai fait attention tout à l'heure parce que maintenant je fais très attention à ce que je dis. Mais ça doit être page 406 à vue de nez. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord sur cette idée que certaines religions protègent plus, mais au moins on pourrait être d'accord avec Durkheim que la religion, c'est-à-dire le religieré, le lien social, peut protéger. Et donc par nature, l'armée devrait protéger puisqu'elle est une sorte de grande famille, en tout cas ce lien de fraternité. Donc d'après Durkheim, l'armée devrait protéger. Mais j'arrive à quelque chose de très étonnant. La famille protège aussi. Mais Durkheim constate que certes, il y a des facteurs qui diminuent les risques de suicide, mais il y a des événements qui sont déstabilisants, comme la guerre, mais qui n'amènent pas plus de suicides. Et nous, on le sait bien, en OPEX, en opération extérieure, on a beaucoup moins de suicides qu'en garnison. Si j'osais débrancher le micro, là. Que en garnison. Donc, et Durkheim le note. Et Durkheim note aussi que le sentiment d'appartenance, donc je veux parler famille, religion, l'armée, d'intégration, c'est ce qu'il dit, d'intégration à la société exactement, il lui fait dire le suicide varie en fonction inverse du degré d'intégration des groupes sociaux dont fait partie l'individu. C'est la grande théorie de Durkheim sur le suicide. L'autre facteur, évidemment, c'est de produire des règles, et ces règles, elles sont fondamentales pour définir exactement ce que, où se situe l'individu. La grande typologie de Durkheim, c'est quatre types de suicides. Le suicide fataliste, qui pour lui résulte de l'excès des règles, qui donne le sentiment que tout est déjà défini par la discipline ou par des lois collectives. Évidemment, ça frappe le militaire. Pour lui, d'ailleurs, il consacre dans son ouvrage 15 pages dans le suicide fataliste sur les militaires. C'est là où il parle des militaires. Ce qui est étonnant, mais très juste à l'époque, le suicide de l'officier est compris, pour ne pas être livré à l'ennemi, c'est son honneur, le suicide du soldat n'est jamais accepté. Il y a une tolérance, une acceptation pour le suicide de l'ennemi. Dreyfus, par exemple, explique très bien qu'on lui suggère un moment de se suicider et puis après on organise tout pour qu'il suicide. Picard de la même façon. Je parle de ça parce que si je l'ai suivi, j'ai étudié, ce serait la solution finalement. Il cède ni l'un ni l'autre. Donc le suicide fataliste pour lui c'est le suicide type des militaires. Le militaire n'a aucune marge de manœuvre. C'est ce qui explique d'ailleurs que les officiers se suicident moins parce que eux ils ont plus de marge de manœuvre. Et c'est ce qui explique que ceux qui se suicident le plus ne sont pas les simples soldats, ce ne sont pas les officiers, ce sont les sous-officiers qui sont écrasés entre les deux. Peu de marge de manœuvre, c'est un peu comme ça qu'il explique. En fait, ça interdit l'appréciation personnelle, c'est le suicide fataliste. Il parle ensuite du suicide altruiste, qui désigne celui qui se sacrifie pour la collectivité. On peut en réalité trouver une forme de suicide altruiste, même si ce n'est pas un suicide, dans le soldat qui va se dévouer, qui monte au front pour sauver ses camarades. Ce n'est pas vraiment considéré comme un suicide, puisque le suicide, c'est chercher la mort. Là, c'est chercher à sauver ses camarades. La mort n'est qu'un dégât collatéral de son action. Vous décrivez cela parfaitement bien, beaucoup plus dans le suicide sacrificiel. Dans votre typologie, c'est ce qu'on pourrait appeler le suicide sacrificiel. Le suicide fataliste pourrait être rappelé, approché, ce que vous avez appelé le suicide escapiste, qui est plutôt le suicide de celui qui va chercher à se sortir comme il peut d'une situation qu'il juge inextricable. Il ne peut pas faire autrement. Alors ça peut être une grande souffrance, ou ça peut être une grande souffrance psychologique. Alvarez, qui a écrit un livre étonnant, qui s'appelle Le Dieu sauvage, explique, en parlant des sociétés primitives, étonnant, il dit cette phrase que j'ai notée parce qu'elle est étonnante, elle est très juste. Il dit... Durkheim pensait que le suicide altruiste était une caractéristique des sociétés primitives et des groupes primitifs à structure rigide, telle qu'il en subsiste encore de nos jours, l'armée par exemple. Et c'est vrai que ça concerne aussi aujourd'hui les suicides. L'autre suicide, c'est le suicide égoïste, on parle Durkheim toujours, qui est le produit d'un défaut d'intégration dans le groupe et qui peut concerner, évidemment, il n'en parle pas Durkheim, mais moi j'extrapole, ça peut concerner le soldat qui ne s'est pas intégré dans le groupe. Toute la bande vit des choses et lui, il est en dehors. On voit souvent ça au début de l'intégration. Les militaires, les médecins militaires détectent, ont une zone de menace suicidaire chez les nouveaux arrivants, ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans le moule militaire dans les 6 premiers mois. Je ne sais pas si c'était comme ça à votre époque, mais maintenant c'est comme ça. Et enfin, le suicide anomique, où l'individu suicide parce que les règles changent sans arrêt. Mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, c'est le suicide, c'est la typologie de suicide la plus évidente pour les militaires, où on change tous les paradigmes du monde militaire. On avait les appelés, on n'a plus d'appelés, on diminue sans arrêt les personnels, on change les missions, on change les organismes, on change les organisations, on change tout dans les armées. Il y a des invariants, un tout petit peu plus que sourire à la bien-aimée, mais il y a peu d'invariants maintenant dans le monde militaire, et c'est quelque chose qui bouleverse la compréhension d'un militaire qui est rentré il y a 20 ans et qui doit maintenant, on lui parle de management, on lui parle de contrôle de gestion, c'est pas un truc, son truc à lui c'était combattre, organiser, mais c'est des concepts complètement différents et c'est un vrai risque. Durkheim ne pouvait pas parler de deux autres suicides que je décris. Le premier, c'est suite au stress post-traumatique, le PTSD. Ça a été décrit au moment de la guerre de 14, ou un peu plus tard avec Ferenczi et Lorenzi, et à la conférence de Budapest en 21. Donc, ce n'était pas possible. Donc, ça, c'est une réalité qui a été décrite. Et enfin, un autre type de suicide, enfin, il y a deux autres types de suicides, mais disons un, c'est celui que j'ai appelé la Yann Palachisation des suicides. À son époque, les suicides se passaient dans une chambre obscure d'un hôtel borne, quelque part discrètement, ou dans la grange perdue, enfin, pour le truc au fin fond, et on venait décrocher doucement le gars et on disait il est mort. Bon. Maintenant, Yann Palach semait le feu, ou le jeune Tunisien qui déclenche les événements en Tunisie met le feu à lui et il lance une sorte de cri. On écrit une lettre accusatrice. C'est ce qui a fait tomber le patron de France Télécom, par exemple. Donc, ce que j'ai appelé la Yann Palachisation des suicides, qui devient quasiment la norme, une sorte de cri envoyé à la société qui a refusé de l'entendre, ça, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est un peu... qui n'est pas décrit. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est ce que vous avez appelé le suicide, dans votre typologie, le suicide agressif. On pourrait le dire... Alors, vous disiez celui que, les jeunes qui crient et qui disent « Vous ne m'avez pas compris. » Voilà, suicide d'appel. Bon. On pourrait le rapprocher de cela, mais c'est nouveau. En tout cas, Durkheim ne peut pas le connaître parce que ce n'est pas la mode du suicide. Il ne faut pas oublier que le suicidé, on le traînait derrière des chevaux.
Albert Bayet l'appelait le suicide imprécatoire.
Alors voilà.
La petite fille de Sparte qui s'est suicidée dans Albert Bayet, le suicide de la morale. Mmh. C'est imprécation contre les dirigeants.
Alors voilà, c'est ce qu'on pourrait voir. À mon sens, c'est ce qui va percuter nos sociétés aujourd'hui. Enfin, dernier suicide, pour les militaires qui est très important, c'est ce que le professeur Clairvoy, Patrick Clairvoy, appelle le suicide des survivants. Le suicide des survivants. Dans l'unité qui a combattu à Ouzbine, où nous avons eu 10 morts en Afghanistan, il y a eu 2 suicides dans les 6 mois suivants. C'est le suicide de Bruno Bettelheim. C'est le suicide de Primo Levi. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas mort. Et en fait, je suis mort avec eux. Et donc, je ne fais que rectifier ce que, par une anomalie incroyable, n'a pas été la réalité. Et ça, c'est quelque chose dont pour lequel on est très prudent. Quand il y a eu soit un suicide, soit il y a eu des morts dans une unité, on fait parler, on envoie des psys immédiatement pour essayer d'accompagner cela. On a vu ça au Rwanda, on a vu ça en ex-Yougoslavie, et c'est quelque chose qui est vraiment terrible pour tous. Vous avez parlé du stress post-traumatique, j'en parle pas. Je voudrais juste conclure en vous disant que finalement, il y a une sorte de romantisme du suicide chez les militaires à cause du seppuku japonais. Le samouraï qui préfère la mort plutôt qu'une forme de déshonneur, puisque son combat n'est plus un combat jugé légitime, ou le samouraï qui n'a plus de maître, le ronin, qui se fait seppuku, meurt, et décide finalement de ne pas affronter le regard de la société. L'enjeu pour les armées, c'est de faire revenir les militaires dans la communauté militaire. C'est-à-dire, en gros, de retisser du lien social. Et c'est pour nous quelque chose qui est très important, parce qu'on le voit bien dans les services psychiatrique après les tentatives de suicide, l'un des enjeux, c'est de réinsérer le militaire dans son unité. C'est valable aussi pour les blessés physiques. C'est l'un des enjeux majeurs, de trouver des emplois pour réinsérer le militaire dans la famille, parce que c'est une rupture du lien social, et le suicide comme atteinte très forte au lien de fraternité est difficile, évidemment, pour celui qui n'arrive pas à trouver comment se situer par rapport aux autres, mais c'est très difficile aussi pour l'ensemble de la société militaire qui fonde tout ce qu'elle est sur ce lien de fraternité.
Merci. Oui, justement, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de remarquer. J'ai dirigé des mémoires d'élèves sur la question des suicides et des blessés. Je l'ai dit dans mon intervention hier, c'est en train de devenir un sujet plus qu'à la mode, voilà, qui est beaucoup traité, et jusqu'à ce qu'on ne voit finalement plus le soldat parfois que sous cet angle-là. Effectivement, la réponse systématique, hein, à tous les problèmes, c'est la réintégration dans l'unité, dans le régiment. C'est même parfois un peu effrayant, hein, tellement c'est automatique. Et, voilà. On n'y arrive pas à imaginer qu'on puisse envisager d'autres formes de réponse que celle-là. Il me semble que vous avez dit tout à l'heure, un militaire qui se suicide ou qui va voir un psy, c'est ça, qui va voir un psy, c'est pas un soldat. Je pense que ça va au-delà. Du point de vue de la culture, je vais être un peu brutale, mais c'est une femme. C'est-à-dire qu'il y a
une femme. Voilà, c'est très intéressant. Ce n'est plus dissible maintenant. D'abord, parce qu'on a 20% des militaires qui sont des femmes. On va le dire autrement, c'est une gonzesse.
Oui,
non, mais voilà. Non, mais c'est important. Parce que une de mes préconisations, mais vraiment, vous touchez quelque chose de très juste, c'est que moi, j'ai suggéré que certains militaires, certaines fonctions, soient obligés d'aller consulter un psy tous les 6 mois, juste comme ça, de sorte que celui qui y aille dans un cadre normé. Et je vais vous dire d'où j'ai tiré ça, de la Bible. Dans la Bible, lorsque le grand prêtre, l'adjoint du grand prêtre, donc mon homologue, si j'ose dire, l'aumônier militaire, c'est dans la Bible, convoquait les soldats, il y avait toute la masse du peuple qui était devant lui, et il disait « Mi'ai, Shacher, Bana, Baitradash, quel est l'homme qui a construit une nouvelle maison ?» et ne l'a pas habité. Qu'il n'aille pas à la guerre, de peur qu'il meure et qu'un autre habite la maison qu'il avait construite. Quel est l'homme qui a épousé une femme, n'a pas vécu avec elle ? Qu'il sorte et n'aille pas à la guerre, de peur qu'il meure et qu'un autre vive. Quel est celui qui a planté une vigne ? Qu'il sorte. Quel est celui qui a peur ? Qu'il sorte et qu'il n'aille pas à la guerre, de peur de contaminer ses frères. Les commentaires disent, en réalité, la maison, l'épouse et la vigne, ce n'est que pour cacher celui qui a peur. Comme ça, quand les masses sortent, personne ne sait s'il a peur, il s'est marié, il a une maison ou il a une vie. Ce qui veut dire que si on avait dit que celui qui a peur sorte, personne ne serait sorti. Donc, c'est un enjeu majeur de normaliser la consultation vers quelqu'un qui peut entendre votre fragilité sans que ce soit en même temps rédhibitoire par rapport à la confiance que vos chefs et vos camarades mettent en vous. En gros, je théorise ça avec mon anneau, ma bague de mariage. Vraiment, quand je me suis marié, j'étais acheté cet anneau et la vendeuse m'a expliqué qu'il y a des milliers de doigts qui sont arrachés tous les ans à cause des bagues, on s'accroche, et les doigts sont arrachés, soit complètement, soit la peau. Et elle me dit, dans votre anneau, il y a un point de fragilité de l'or qui fait que l'anneau casse avant votre doigt. Je n'ai pas été vérifié, mais je lui fais confiance. Mon idée, c'est qu'il faut expliquer que le point de fragilité d'un homme, c'est ce qui fait sa force quand on le connaît. Et vraiment, c'est un travail que j'essaie de faire dans les armées, d'expliquer que, par exemple, un tireur d'élite a besoin de voir un psy régulièrement. Ce n'est pas un métier anodin, parce que vous voyez celui qui meurt jusqu'au bout. On a découvert que, par exemple, les manipulateurs de drones ont eu des déficits terribles, parce qu'un militaire sur le terrain, il est loin de chez lui, il est en guerre, Un opérateur de drone se trouve à 50 mètres de chez lui, il finit son boulot à 17h, il a tapé des cibles. Je parle des opérateurs américains qui ont des drones qui frappent des cibles. Je ne parle pas des nôtres qui sont des drones d'observation. Je parle des drones américains. Il tape et 10 minutes plus tard, il est chez lui. Et il n'y a pas cette rupture entre le monde de la guerre et le monde de la vie normale. Donc des phénomènes de violence. Et les Américains ont mis des psys et des aumôniers. auprès des opérateurs de drones. Donc c'est une question absolument juste. Il faut absolument normaliser la consultation psychiatrique.
D'accord. Mais alors, bon, c'est vrai que ça peut dissimuler, enfin, ça peut permettre de noyer le poisson vis-à-vis du regard des autres. Peut-être pas du point de vue du jugement qu'on porte sur soi-même. C'est-à-dire que quand j'ai parlé des femmes, c'est vrai que ça ne choque absolument pas. Enfin, il me semble qu'il y a des gradations. Une femme militaire qui va voir un psy, tout le monde trouve ça normal. Tout le monde, pas.
Oh, si. Pas quand les leaders de la PAF. Croyez-moi, je connais Virginie Guyot. Quand,
non, oui,
quand vous êtes sur un escadron de chasse et que vous dites je suis pas bien, garçon ou fille, votre chef vous dit écoute, occupe-toi de la direction des vols et laisse voler ceux qui sont.
Alors, c'est plutôt l'expérience de l'armée de terre et pas de ces situations assez exceptionnelles. Mais je dis c'est normal, c'est pas normal, mais en fait ça choque pas les gens parce qu'ils partent du principe qu'une femme est plus faible, donc voilà, tout ça, voilà, c'est normal. Bon. Le soldat, pourquoi pas ? Après tout, on part souvent du principe qu'il est là pour de mauvaises raisons aujourd'hui. Voilà. Mais alors, l'officier, le chef, voilà, c'est même pas la peine d'y penser, c'est impossible. Et donc, c'est effectivement une bonne idée d'obliger tout le monde à le faire. Comme ça, il n'y a pas de distinction entre les gens, mais il reste toujours le regard qu'on porte sur soi-même. Et comme c'est un élément culturel, il est normalement intériorisé par les individus qui souffrent. Donc, il faut aussi qu'eux soient capables, pour que ce soit efficace, de modifier leur propre perception d'eux-mêmes.
Ça peut se faire avec le discours des chefs, des grands chefs. Vous voyez, quand par exemple le ministre vient et clôture le colloque sur les blessures invisibles, finalement celui qui a consulté récemment, un général qui a consulté récemment, il dit bon, je suis peut-être pas si barge que j'ai bien voulu croire, et finalement c'est normal, ça prouve que j'ai beaucoup de stress, je travaille beaucoup. On valorise ça aussi en disant mais c'est normal. Sauf qu'elle ne se voit pas, cette blessure. Tu as été blessé à la guerre. Or, vous savez très bien que la blessure, y compris la reconnaissance, c'est-à-dire les décorations, les médailles, l'avancement, etc., sont un élément important de la reconnaissance de l'institution. Donc quand vous dites « tu es blessé », alors c'est bon. Ça veut dire que j'étais au combat. À ma façon, j'étais au combat. Donc ça fait partie, vous avez absolument raison, de la revalorisation, à ses propres yeux, du militaire.
J'arrête parce que je pourrais... Oui, je ne vais pas
vous dire... Vous avez parlé du CIGICOP, qui est le sigle d'aptitude. S, état général, M, mon supérieur, I, mon inférieur, G, état général.
Y, les yeux.
C, le vision des couleurs. O, l'audition. Et P, la personnalité. Pour être admis, il faut avoir un partout. C'est-à-dire, 1, c'est très bon, et 5, c'est mauvais, 4 et 5. Une fois que le sujet est admis avec un partout, il ne faut pas, si ensuite il se suicide, au bout de 3 ou 4 mois de service, il ne faut pas qu'on aille dire que c'était dû à sa personnalité antérieure, ce que beaucoup cherchent à faire. S'il était admis, l'armée l'a reconnu apte. Donc il était sain. Donc, ce qui est arrivé après, c'est éventuellement dû au service. Il se peut qu'il y ait un chagrin d'amour, mais ça peut être dû au service. Et c'est là que joue la présomption d'origine. C'est très difficile. C'est pour ça. Très souvent, on se donnait 3 mois. La règle des 3 mois pour décréter l'aptitude définitive.
Mais vous leur mettiez un zéro. Vous leur mettiez un zéro. Les 3 premiers mois, on n'est pas P1, on est P0.
C'est ça, oui, P0.
Voilà. Et ensuite, on passe P1, et après, ça peut évoluer.
C'est pour revenir là, parce que vous avez parlé de suicide imprécatoire par rapport au modèle Yann Palach. En fait, après Durkheim, il y a Maurice Pinguet qui, dans La mort volontaire au Japon, appelle ça suicide de remontrance, avec résonance communautaire. Et puis ensuite, par rapport au modèle japonais, je ne suis pas certain que ça corresponde au modèle intégration, exclusion de suicide que vous décrivez, parce que se suicider, notamment quand on suit son maître dans la mort, c'est-à-dire quand on suit son corps d'armée dans la mort, c'est plutôt un acte communautaire d'obédience à la communauté qu'un acte d'exclusion de la communauté.
Donc c'est fataliste.
Voilà. Et le Ronin, c'est le... je voulais juste le dire aussi.
Celui qui perd son maître.
Voilà, c'est le samouraï au gré de la vague.
Voilà.
Il n'a plus de maître et il n'a pas nécessairement à se suicider, oui. sauf si c'est un simulateur. Et le mythe des 47 Lonin, c'est précisément ceux qui font semblant d'être au gré de la vague pour mieux exécuter leur vengeance.
Vous avez raison, parce que je suis très prudent en fait, avec le Japon. D'abord, parce que c'est une question de culture, c'est différent. Les engagements sont beaucoup plus, effectivement, les engagements de groupe. Et puis, l'image première au Japon, à part le seppuku, c'est le kamikaze. Or, ce n'est pas un suicide. Le kamikaze n'est pas un suicide. Il faut bien dire, comme dans la Bible, on dit qu'il y a 4 suicides, dont celui de Samson. Samson, ce n'est pas un suicide. Samson étant... Ah ouais. Non. Comment on peut dire que Samson est un suicide? Il est mort de ce qu'il a fait, mais il ne voulait pas mourir. Il voulait tuer les Philistins. Donc, il est sous les colonnes du temple. Il fait tomber les colonnes pour tuer les Philistins. Sa mort n'est qu'un dégât collatéral. Or, la théorie du suicide, c'est clair.
Il n'a pas mis de casque.
Non, pas de casque à pointe. Mais la théorie du suicide, c'est je cherche ma mort. Or, il ne cherchait pas sa mort. Contrairement au roi Saül, par exemple, qui lui voulait se suicider pour ne pas donner son corps à l'ennemi.
C'est un peu proche de la théorie.
Mais.
Sur les Américains, vous avez cité à plusieurs reprises, je vous fais remarquer quand même qu'aux États-Unis actuellement, au Canada, ils ont pu constater que le nombre de suicides dépassait le nombre de morts de l'Irak, en Irak et en Afghanistan. D'autre part, l'histoire de l'arme pour les gendarmes. Regardez le cas de la Suisse, où les soldats, ils sont tous réservistes et ils ont leur arme de combat à la maison. Et c'est rarissime, mais vraiment rarissime qu'il y ait un suicide avec, ou même un meurtre. C'est-à-dire que l'arme est sanctuarisée, et s'ils suicident, ils se pendent, je ne sais pas quoi, mais ils n'utilisent pas l'arme de combat. Donc ça veut dire que, quelque part, ce n'est pas parce qu'on a une arme de poing, enfin une arme individuelle, etc., qu'on l'utilise pour se suicider. Pour les gendarmes, il faudra chercher autre chose. Et puis, troisième point, dans le cas de l'armée qui dit « je ne suis pas au courant », etc., moi j'ai le cas de quelqu'un, donc, suite à qui a fait la guerre du Liban, qui manifestement est revenu pas très bien, et qui à un moment, 10 ans plus tard, a reçu une décoration. Fait une guerre pour tout, enfin une légion d'honneur, etc. Et il a considéré que ça n'était pas, il n'y avait pas droit, que c'était injuste qu'il ait reçu. Il ne l'a pas pris comme étant une reconnaissance, puisque lui, il est toujours vivant, les autres sont morts, etc. Alors non seulement il s'est suicidé, mais il a aussi tué sa femme. Ce qui est quand même un peu embêtant. Et l'armée a dit, affaire de famille, on n'y est pour rien. D'accord. Je vous garantis que la famille, là, est en mauvais état.
Non,
à cause de la guerre.
Non, si vous permettez, vous voyez, ça c'est typiquement... C'est une question, si vous permettez, je ne veux pas... Bon, je vais répondre à vos deux questions. La première, effectivement, vous avez raison, les Américains font des panneaux publicitaires en ce moment, enfin depuis quelques temps, avec des jeux de cartes, sur le fait que les suicides ont tué plus, c'est incroyable, dans les armées que la guerre en Irak. Pour eux, c'est terrible. Les Américains, je pourrais vous montrer les textes. Le New York Times a fait un article il y a un an et demi là-dessus, un grand article, première page. Deuxième chose, deuxième question, je ne connais pas le cas, et je pourrais discuter, et je crois que vous proposez dans votre ouvrage... sur les 126 cas, finalement, il faudrait regarder tous les liens de la personne, ce qui sera un boulot à plein temps pour 15 ans, pour chacun. On raconte toujours une histoire, c'est une forme de storytelling sur chaque suicide. Et une histoire, c'est que finalement, vous n'en savez rien, si c'est vraiment l'élément déclenchant du suicide de ce militaire. C'est comme ça. Oui, mais ça a déclenché. Ou est-ce que c'est l'élément déclenchant, ou est-ce que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Est-ce que c'est logique, ou est-ce que c'est comme ça qu'il juge que finalement l'institution m'a humilié? Je pourrais vous raconter la même histoire en vous disant, quoi, ils me la donnent 10 ans après, mais ils me prennent pour qui, alors que j'ai des planqués à côté de moi qui l'ont eu sans rien foutre dans les bureaux, et moi j'ai rien, ce qu'on entend tous les jours dans les militaires, chez les militaires.
C'est devenu banal.
Mais voilà. Donc vous estimez que c'est parce qu'il ne la méritait pas? Non. Oui, mais il le dit parce qu'il y a toujours une auto-justification. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire les choses telles qu'on les ressent, surtout quand ça amène à une telle... Ce que je veux vous dire, c'est que... je suis très prudent. Par nature, je suis très prudent sur ce qu'on dit comme on explique des gestes aussi inexplicables qu'un suicide. Surtout quand c'est un suicide précédé d'un meurtre. Parce que, encore le suicide, il y a une forme de résignation. Un meurtre, il faut vraiment vouloir détruire autour de soi. Donc c'est un geste difficile. Et bon, je suis toujours très prudent dans ces explications a posteriori. Et ces recherches, d'ailleurs, c'est l'une des questions terribles du suicide. J'ai suivi le cas d'un suicide d'un petit à qui le père dit « Écoute, bon, hâte de fumer ». Le petit dit rien, monte sur un immeuble, se balance et il écrit en haut « Comme ça, j'arrêterai de fumer ». C'est évidemment pas uniquement la phrase du père qui dit ça, mais ça, c'est vraiment une attaque terrible contre le père, parce qu'il sait que le père va rester avec ça. Donc, on ne peut pas dire « c'est ça qu'il a fait ». Donc je suis toujours très prudent sur les justifications de suicide, y compris chez les militaires.
Pour les militaires, ils sont particulièrement...
Oui, bien sûr.
Sur ces recommandations de prudence interprétative, on va écouter notre dernier intervenant qui, voilà, va venir se mettre ici. Donc c'est le professeur... Oui, quelqu'un peut-il appuyer sur le, s'il vous plaît ? Merci. Normalement, ça va venir progressivement. C'est bon. Ouais, c'est en train de. Hop. Mais beaucoup, quasiment tous les sujets. Donc, on passe à notre dernière communication, le professeur Houdet, qui va nous parler de la psychologie du spectateur et que je laisse donc immédiatement parler.
Merci à vous. Je remercie Jean Bechler et l'Académie des sciences morales et politiques de cette invitation. Je ne suis vraiment pas du tout spécialiste de ce sujet. Donc je vais le traiter qu'un certain niveau d'abstraction et introduire quelques éléments de réflexion du point de vue de ce qui est mon domaine de recherche et d'enseignement, à savoir la psychologie du développement cognitif des enfants et les mécanismes d'apprentissage dans le cerveau humain. J'ai néanmoins accepté l'invitation tout en n'étant pas spécialiste pour, d'abord vous faisant confiance et puis pour trois raisons. Le programme indique pour cet après-midi après la guerre. J'aurais tendance à dire que non, ce n'est pas après la guerre. Il y a les événements d'actualité, comme on le sait, ce que j'ai rappelé sur ces images, les célébrations du débarquement, les frémissements de guerre en Ukraine. Et par ailleurs, là c'était tout à fait par hasard, mais je me permets de vous l'indiquez, au moment où vous m'avez fait cette invitation en février, j'achevais de rédiger un livre qui va paraître à la rentrée, qui s'appelle « Apprendre à résister ». Et ça concerne les enfants qu'on entend en arrière-plan de cette salle. Et « Apprendre à résister » comme un mécanisme fondamental du développement cognitif. Et peut-être, mais c'est de l'ordre de l'association d'idées, y a-t-il par ce biais un lien avec la question qui vous réunit. Alors, tout d'abord, du point de vue du cerveau, qui est néanmoins, que ce soit au niveau individuel ou collectif, au cœur de tous les sujets qui viennent d'être évoqués, que ce soit la mémoire, les traumatismes, le passage à l'acte, l'autorégulation de l'action, la représentation de soi-même et d'autrui, le cerveau commence, ainsi que vous le savez, être de plus en plus connu du point de vue de son fonctionnement, et ce schéma qui résume les connaissances actuelles tant dans le cerveau humain que dans les cerveaux aujourd'hui simulés sur ordinateur, ce qu'on appelle le cerveau artificiel. Il y a toute une série d'étapes très précises que vous voyez sur cette image en trait visuel, codage de l'information, calcul de transformation, évaluation de la récompense. Alors ces récompenses au sens très général, le système des émotions positives ou négatives dans le cerveau par rapport à l'action, décodage de l'information, traitement moteur et au final commande motrice, le tout étant coordonné dans notre cerveau avec une partie cruciale, le cortex préfrontal, qui gère la mémoire de travail et la sélection de l'action. Donc on ne peut pas ne pas penser que, même si ce n'est qu'un niveau d'observation, qu'une meilleure connaissance du fonctionnement humain, du cerveau humain, de ses mécanismes, soit l'un des éléments de la réflexion sur un sujet aussi général et finalement culturel que la guerre. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans les résultats que nous avons découverts ces dernières années dans mon laboratoire, et que cette architecture cérébrale, dont vous voyez qu'elle est identifiée par un certain nombre de régions liées à ces différentes fonctions cognitives que je viens d'évoquer, n'est pas du tout fixe. Donc on n'est plus dans le phrénologisme, le néophrénologisme, avec l'idée que notre cerveau est finalement très cristallisé et câblé pour tel ou tel type d'action ou de stratégie mentale et cognitive. Mais ce que l'on a découvert, et ce que vous voyez sur ces deux images qui se succèdent à gauche et à droite de cette grosse flèche bleue, c'est la plasticité cérébrale et le fait que par certaines prises de conscience, par des apprentissages à l'inhibition de l'impulsion et des automatismes, on peut créer chez les mêmes individus une reconfiguration qui, en termes anatomiques, est postéro-antérieure, de l'arrière du cerveau vers l'avant, et que cet apprentissage à l'autorégulation est un signe de l'impact de la pédagogie sur notre capacité de réflexion, de recul et d'autorégulation. Et nous avons essayer d'étudier cela finement, tant chez les adultes que chez les enfants, de grandes sections de maternelle au CM2, avec Arlette Pinault qui est ici et qui me fait le plaisir de sa présence. Et cela vaut sans doute pour beaucoup d'éléments dont on a parlé ici, que ce soit au niveau individuel ou collectif, face à la guerre et aux différents schèmes qu'elle peut mobiliser, cette question de la réflexion, du recul et de l'autorégulation. Je croiserai cela avec la question qui a peut-être été abordée ce matin ou hier des écrans et des images de la guerre. J'ai commencé par les images qu'on a vues, des commémorations du débarquement ou des frémissements de guerre en Ukraine. Ces images de la guerre, pour cette génération qui ne l'a en général pas connue, vient par les écrans. Et toute la question qu'on abordé dans la discussion, si vous voulez, différence entre réel et virtuel. Ça a un peu été abordé juste avant avec cette déconnexion avec les affaires des drones ou l'aller-retour sur le terrain de guerre très, très rapide ou plus long. Et nous avons remis, je pense que c'est par cet angle-là que vous m'aviez invité, M. Bechler, à l'Académie des sciences l'an dernier, un rapport qui s'appelle un avis, l'enfant et les écrans, avec l'idée que faut développer chez les enfants face à tout type d'images auxquelles ils sont confrontés très tôt, et en particulier des images de violence et de guerre, une éducation à l'autorégulation de l'enfant face aux écrans. Nous avons préconisé une vingtaine de séances pédagogiques qui sont aujourd'hui appliquées dans les écoles via la fondation La Main à la Pâte et qui s'appelle Les écrans, l'enfant, le cerveau, les écrans, le cerveau et l'enfant. Alors, ce que l'on essaye de mobiliser dans ce rapport à la guerre qui passe en effet aujourd'hui souvent par les images, surtout en période de commémoration, c'est cette prise de recul, de réflexion. Et vous avez en quelque sorte dans ces deux images du cerveau, celle de gauche, vraiment le cerveau de l'automatisme, de l'action, et celui de droite, de prise de recul par rapport à cette action. Et ces images que vous reconnaissez, mais dont on voit quand même la grande similitude entre Guernica, Valls avec Bachir, qui décrivait le conflit Proche-Orient. Il y a dans le schématisme finalement de cette violence et dans le caractère fictionnel, il y a une certaine analogie, et donc les frémissements de cette guerre en Ukraine. Donc je pense que l'une des dimensions, c'est de travailler sur ces images, sur ce qu'elles évoquent, et de déclencher au-delà précisément des automatismes cette plasticité cérébrale de prise de recul et de réflexion. À travers cela, peut-être que s'il y a un enseignement à tirer des découvertes actuelles en psychologie du développement cognitif de l'enfant, et par rapport à la guerre, et que l'on sait aujourd'hui que ce développement cognitif, donc le développement de la pensée, des représentations mentales, n'est pas linéaire, contrairement à ce qu'avait décrit Piaget avec une succession de stades du sensorimoteur à l'abstraction, n'est pas linéaire, mais est un système dynamique non linéaire. À savoir qu'à tout âge, dans le cerveau, et c'est ce que vous voyez sur le schéma de droite, plusieurs stratégies, Madame Taylor a parlé de schème tout à l'heure, on peut dire schème mental, plusieurs façons de catégoriser la culture, la nature, soi, les autres, coexistent avec des dominances plus ou moins grandes. Et cela est vrai pour toute l'architecture cognitive, ce que l'on étudie vraiment aujourd'hui expérimentalement et avec l'imagerie cérébrale, pour la permanence de l'objet, pour la question du nombre, donc quantification des objets, la catégorisation, traitement qualitatif des objets, forme, couleur, taxinomie, et également pour le raisonnement qui est le moment au cours de l'enfance où ces traitements quantitatifs et ou qualitatifs des objets ne portent plus seulement sur du concret, mais sur des idées, des hypothèses. Et finalement, je m'essaye, on prend des risques dans une réunion comme celle-ci, mais si je devais, avec justement cette approche qui est la mienne, caractériser la guerre, je dirais que c'est toujours une intelligence détournée au sens de l'objet, du nombre, de la catégorisation et du raisonnement. Et Madame Taylor, vous évoquiez tout à l'heure la question du nombre, de la quantification qui finalement devenait un argument dans un certain raisonnement de guerre. J'aurais tendance à dire que s'il y a des analyses nouvelles à faire de la guerre, ce serait intéressant du point de vue de la construction du raisonnement de réanalyser en effet les différentes dimensions par le biais de l'objet présent ou pas présent. C'est ça qu'on appelle la permanence de l'objet, la question des drones, des ennemis plus ou moins présents, la question du nombre, parce que finalement, je ne prendrai pas d'exemple, mais tout le monde le comprend, c'est très souvent des raisonnements fallacieux sur la quantification des populations ou d'autres choses. Qui peut conduire à un raisonnement simple, finalement, qui provoque la guerre et le manque d'autorégulation de l'action? Et ça peut aussi être la catégorisation, bien évidemment, catégorisation des individus ou des événements. Donc, si on va aux racines de ce qui peut conduire à une intelligence détournée qui conduit à la guerre, peut-être que ces notions relatives au développement cognitif des enfants a un lien. Et à travers cela, vous vous souvenez de la bascule cérébrale que je vous ai montrée de l'arrière vers l'avant du cerveau, ce qu'on étudie, c'est l'inhibition, au sens positif du terme, la capacité d'inhiber une stratégie dominante lorsqu'elle est erronée, violente en l'occurrence, si c'est la question de la guerre. Et c'est en ce sens que le petit livre dont je vous parlais, je l'ai appelé « Apprendre à résister », dans la mesure où cette capacité du cortex préfrontal à se dégager de ces automatismes ou des actions impulsives, dont on voyait la trace cérébrale tout à l'heure, c'est une propriété de résistance cognitive. Et en chaque enfant, il faut continuer de développer cette capacité de résistance cognitive. Ça vaut pour les apprentissages scolaires où beaucoup d'automatismes ou blocages relèvent d'un défaut de résistance des impulsions. Et peut-être cela a-t-il un rapport avec la guerre. Et, c'est un extrait de la conclusion, je crois, que où il est, j'avais écrit, je l'ai repris ici. Résister en 2014, oui, parce que dans le cerveau comme dans le monde, tout, erreur cognitive, préjugés, stéréotypes, barbarisme, guerre, massacre, intolérance, autodestruction peut revenir à n'importe quel moment. Exactement comme dans le développement cognitif de l'enfant, on découvre que des erreurs de raisonnement, des schèmes que l'on croyait archaïques ne sont pas archaïques, mais repassent devant par défaut d'inhibition à tout moment. Et ce côté non linéaire du développement cognitif de l'enfant est sans doute l'un des mécanismes qui fait qu'on peut considérer, contrairement à ce qu'annonce le programme, qu'on n'est pas après la guerre et que l'une des dimensions, c'est la prise de conscience et l'exercice de pédagogie à cet égard.
Merci. Moi, je pense que là, les questions peuvent être nombreuses. Oui.
Je ne veux pas parler avec un vocabulaire de psychologue parce que j'en suis incapable, mais je me demande comment vous conciliez ça avec la sensibilisation indirecte mais inévitable avec les phénomènes de stéréotypisation qui permettent justement de cibler et d'affronter la réalité. Et je n'ai pas saisi comment on peut intégrer la résistance par rapport à la stéréotypisation, avec ces risques justement de biais, de conduite biaisée à reproduire, etc. J'ai un petit problème là.
Alors, c'est précisément ce que l'on étudie. Je pourrais me communiquer un certain nombre de publications qu'on a réalisées sur le sujet. Donc, par exemple, dans le domaine du raisonnement, vous avez des stéréotypes sociaux qui court-circuitent le raisonnement logique, ce qui fait que, par exemple, sur ce schéma, la stratégie que vous voyez 5 domine à l'âge adulte, et très souvent, des stéréotypes dominent et court-circuitent le raisonnement logique. Et ce que l'on a pu, nous, découvrir, c'est qu'un exercice à l'inhibition de ces stéréotypes libère l'aspect logique et créatif. Daniel Kahneman, seul psychologue contemporain prix Nobel d'économie, comme vous le savez, a fait toute sa théorie sur deux vitesses de la pensée, système 1, système 2. Le système 1, ce sont les émotions, pas toutes, mais certaines émotions qui conduisent à des réactions trop impulsives, les stéréotypes, les biais cognitifs en général. Et le système 2, c'est la logique plus lente, plus analytique, mais très rarement appliquée, contrairement à ce qu'évoquait Piaget. Et donc, dans un petit que sais-je que j'ai rédigé publié cet hiver, qui s'appelle Le raisonnement, j'ai développé l'idée d'un troisième système, pour lequel on a beaucoup de données expérimentales et scientifiques, qui est précisément ce système, au cas par cas, pour répondre à votre question, d'inhibition des stéréotypes ou des biais cognitifs pour activer une forme de raisonnement logique. Parce qu'on peut considérer que par une éducation au raisonnement, la guerre ou l'anticipation des guerres peut être traitée. Donc par rapport à votre question, oui, les stéréotypes existent, ils dominent. Il ne s'agit pas seulement de stéréotypes chez l'enfant, les adultes sont bien évidemment tout autant victimes des stéréotypes, et il s'agit d'apprendre à les inhiber. Et la logique n'y suffit pas. Les stéréotypes sont plus forts que la logique. Donc c'est pourquoi moi, je fais l'hypothèse d'un troisième système, préfrontal exécutif, qui nécessite une mobilisation cognitive et des formes d'apprentissage qui bloquent, qui inhibent les stéréotypes parce que la logique est en elle-même impuissante à le faire.
Oui, j'avais si ça vous embête, parce que juste pour ça rebondit directement. J'ai toujours le même petit souci. Vous avez parlé de Kahneman avec l'idée que le fonctionnement, on va dire, de référence de l'esprit, alors bon, du cerveau, serait un fonctionnement qui mènerait au vrai si nos raisonnements n'en étaient détournés par l'erreur, et qu'il faudrait inhiber l'erreur pour permettre...
C'est pas inhiber l'erreur, hein, c'est
d'accord.
Inhiber certaines stratégies cognitives qui, dans un cas particulier, peuvent conduire à une erreur.
D'accord. Mais ça voudrait dire, donc, sans ces dérivations... Enfin, c'est un peu bizarre pour moi d'arriver à penser ce qui pourrait amener au vrai sans penser de façon simultanée ce qui mène à l'erreur. C'est-à-dire qu'on pourrait... Je ne sais pas si je
Alors,
suis ce, clair.
Mais... Oui, tout à fait clair. Cela présuppose, ce que je n'ai pas eu le temps de faire, d'analyser... J'ai parlé de Chem rapidement pour faire écho à la conférence sur l'anthropologie... Le terme le plus exact pour nous, c'est stratégie cognitive. Et donc, c'est l'idée que cette architecture cognitive, objet, nombre, catégorisation, raisonnement, qui se développe chez chacun d'entre nous, pour chacun des principes, vous avez à chaque fois deux types de stratégies cognitives qui entrent en compétition. Soit des heuristiques, ce que j'ai appelé rapidement d'automatisme. Heuristiques sont des stratégies très efficaces, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Autrement dit, le cerveau humain utilise énormément d'heuristiques pour une adaptation rapide, qui sont les stéréotypes, les courts-circuits. L'algorithme, à l'inverse, est une stratégie plus lente, plus analytique, qui demande donc un effort cognitif, un effort mental, qui, elle, conduit systématiquement à la bonne solution. Et l'application des algorithmes, même si on les maîtrise potentiellement, c'est la logique piagétienne, est très rare. Et les heuristiques, on a bien raison de les utiliser parce que ça permet une adaptation très fréquente. Donc, dans chacun de ces domaines, pour le nombre, pour la catégorisation, pour le raisonnement, vous avez des heuristiques et des algorithmes correspondant à des réseaux cérébraux différents que l'on visualise qui entrent en compétition. Et par rapport à cela, vous avez un arbitrage au cas par cas. Et il n'y a aucune normativité dans cette affaire. C'est-à-dire, ce qui est l'algorithme dans un cas et qui fonctionne bien va être inadapté dans un autre cas. D'accord. Et de même pour l'heuristique. Et nous avons, je profite de la référence qui a été faite à Philippe Descola pour en parler, nous avons un projet avec Philippe qu'on va vraiment mettre en œuvre, où lorsque j'ai discuté de toutes ces questions avec Philippe Descola, il m'a dit, mais Olivier, finalement, chacune des stratégies cognitives que vous découvrez dans ces domaines, objet, nombre, catégorisation, raisonnement chez l'enfant, on va dire occidental, pourrait correspondre à l'un des schèmes, animisme, totémisme, analogisme, artificialisme, qui dans toute culture est plus ou moins dominant. Et avec un écho très fort, souvenez-vous que Piaget avait bien décrit un stade animiste chez le jeune enfant. Mais pour Piaget, c'était un stade archaïque, primitif, qui disparaissait de façon linéaire pour laisser la place à la logique, à la rationalité, etc. D'accord. Avec la conception qu'on a aujourd'hui d'un système dynamique et non linéaire, très vraisemblablement, notre culture a, pour toutes les raisons que l'on connaît, renforcé le mode naturaliste, les sciences, inhiber, désengager le mode animiste, mais il suffit que nous soyons devant une machine à café qui ne fonctionne pas ou un ordinateur que l'on ne sait pas tout à fait utiliser pour que les conduites animistes reviennent. Et il est certainement de même pour l'analogisme et le totémisme. Donc on voit comment, de façon générale, et c'est ainsi que je réponds à votre question, pour vous indiquer que le défi est permanent parce qu'il n'y a précisément pas de normativité et que ce qui est la logique dans un cas ne l'est pas dans l'autre. Et que ce qui caractérise fondamentalement l'humain est très certainement ce système dynamique non linéaire. Mais nous ne sommes pas comme des vagues au bord d'un rivage où l'on serait dépendant de ces vagues. Il y a la volonté, pour reprendre l'expression philosophique classique, que l'on appelle aujourd'hui fonction exécutive du cortex préfrontal, qui permet cette inhibition et cette activation, mais qui n'est pas du tout, qui ne va pas de soi. Il n'y a pas dans les programmes scolaires apprendre à inhiber, où l'inhibition est prise dans un sens négatif. Or, je pense que l'inhibition est au cœur de la créativité, de la pensée, et qu'elle permet précisément, au cas par cas, d'inhiber et d'activer les heuristiques et les algorithmes.
D'accord. Donc vous voyez comment vous pouvez utiliser tout ça pour inhiber des réactions irrationnelles aux images violentes, et éventuellement même débarrasser de la violence. Moi, pour le coup, on peut aussi imaginer tout ce qu'on pourrait faire de ça pour augmenter les capacités et l'efficacité militaire. Mais je ne sais pas si c'est très...
Ça, bien. Vous savez, c'est le propre de la science d'être développé dans des sens antagonistes. Voilà. Madame Taylor, vous aviez une question.
Techniquement, Comment est-ce que on apprend, ou comment est-ce qu'on répand dans les écoles, par exemple, et quelle technique d'apprentissage de l'IA, comment est-ce qu'on apprend à inhiber, primo, et comment est-ce qu'on peut apprendre efficacement à inhiber dans le cas de sa propre société, dont les automatismes qu'on cherche à inhiber sont précisément instillé, si j'ose dire, par la socialisation qu'on subit. Donc, du coup, est-ce que vous pourriez dire un mot de comment on s'y prend ?
Alors, verbalement, je peux vous énoncer que le principe. Donc, l'effet que vous observez sur l'image que je vous ai montrée, donc chez les mêmes individus, le fait qu'après avoir inhibé un raisonnement biaisé, par exemple reposant sur un stéréotype, s'opère cette reconfiguration cérébrale, ce n'est évidemment pas un coup de baguette magique. Donc, entre les deux examens d'imagerie cérébrale, les individus sont dans une situation d'apprentissage de l'autorégulation. Alors, par exemple, chez les enfants en maternelle, on a un jeu qui s'appelle l'attrape-piège, où vous avez un espace qui correspond au répertoire des réponses possibles, un espace hachuré qui correspond à un carton réponse qui est le schème dominant de l'enfant à ce moment-là, auquel il est absolument attaché, et on lui apprend à bloquer ses réponses impulsives. Donc vous avez, c'est un exemple simple, 1000 façons d'exercer l'autorégulation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'apprend pas la logique en tant que telle, parce que très souvent, et c'est le cas chez les jeunes enfants et même les bébés, ils...
Si
Certainement. C'est ce que vous avez sur la figure de gauche. Alors, oui et non, si vous voulez, l'actualité des découvertes montre que vraiment, au niveau, là, on parle de du contrôle attentionnel, la conscience réflexive est vraiment, mobilise fortement le cortex préfrontal. Alors, ce sont des choses mesurées finement. Par exemple, un enfant de grande section de maternelle, vous faites un petit jeu, il doit dénommer un animal, sur une image d'animal. Soit vous avez le corps de l'animal et la tête de l'animal qui coïncident, une vache avec une tête de vache ou une vache avec une tête de cochon. Et il doit dénommer le nom du corps, et dans certains cas, il faut qu'il inhibe la réponse cochon pour activer la réponse animale. C'est extrêmement difficile pour les enfants d'école maternelle, parce que ce contrôle cognitif n'est pas encore mis en place. Et si vous mesurez ce score exécutif, vous trouvez qu'il corrèle avec une région particulière du cortex préfrontal, qui est le cortex préfrontal inférieur droit. C'est une tâche très connue qui s'appelle le Stroop. Si vous présentez à un adulte le mot vert écrit en rouge et qu'il doit dénommer la couleur d'impression du mot, on a tous envie de dire vert, parce que l'automatisme culturel de la lecture est surappris. Et donc, il faut à ce moment-là être capable d'inhiber cet automatisme pour utiliser un schème qui, finalement, la catégorisation des couleurs est extrêmement précoce, plus primitif. Néanmoins, très tardivement, on ne parvient pas à l'inhiber. Donc, voyez là que ce n'est ni une question de lecture, ni une question de catégorisation des couleurs, c'est une question d'inhibition. Et cette activité-là, cette forme d'inhibition-là, est directement corrélée au cortex préfrontal. Oui. Et pareil, c'est ce test-là que j'évoque et dont on a fait une version pour les enfants. Et cet exemple est amusant parce qu'on comprend bien que s'il n'y a pas eu dans la culture l'apprentissage de la lecture, tout le monde réussit ce test. Donc l'automatisme et la culture créent les automatismes qu'il faudra apprendre à inhiber. Et finalement, c'est aussi au cœur de la créativité. Alors on quitte un peu le sujet de la guerre, mais je pense qu'il y a sans doute des liens à faire avec des représentations de la guerre.
Mais, pour être franc, j'avais en tête quelque chose d'assez différent en énonçant le sujet psychologie du spectateur, mais c'est facile à relier à ce que vous avez dit. La vision, on dit comme ça, la vision de films de guerre, que ce soit des documents ou des films de fiction, ont quelle incidence sur ces systèmes, ces stratégies, ce ne sont pas des systèmes, c'est des stratégies cognitives. Tout bêtement, si on est parent de jeunes enfants, faut-il leur interdire, faut-il les encourager ou faut-il être une attitude neutre, si vous voulez.
Alors, à la question de votre question sur l'incidence face à des images comme celles qu'on a sous les yeux, l'un des phénomènes contraires à l'inhibition que j'ai décrite, très connu dans le fonctionnement cérébral, est ce qu'on appelle le phénomène de résonance motrice, ce qu'on appelle le fameux neurone miroir, et le fait que lorsque vous observez des actions, en l'occurrence des actions violentes, ça crée par résonance la mobilisation des mêmes réseaux d'actions dans votre cerveau. Et ça, c'est un phénomène assez fort, et donc on peut imaginer, selon les styles, les personnalités, que des images comme celle-là créent une résonance motrice, et le phénomène de contrôle inhibiteur que je décris va en sens inverse. C'est-à-dire que les images, les réseaux sociaux entraînent finalement les générations nouvelles sur un mode de la résonance, du partage, qui a ses aspects positifs. Mais on est dans la résonance, on est dans la réplique et l'imitation. Et par rapport à ça, cette idée de résistance cognitive que j'évoque, qui est une façon plus générale que de parler d'inhibition, qui paraît un terme plus technique, mais pour moi c'est la même chose, cette résistance cognitive va précisément casser, en quelque sorte, cette résonance cognitive. Et la réponse à votre question, M. Bechler, des images, c'est cela, c'est-à-dire que sans même que ce soit une génération de la guerre, c'est par les jeux jeux vidéo violents, ou par les images de guerre, irrépressiblement, ça déclenche des automatismes par résonance motrice. L'enjeu est d'inhiber cette résonance motrice.
Bon, supposons une société très pacifiée, où la guerre est devenue une très grande improbabilité. Nous sommes malgré tout une espèce agressive. Je parle simplement, c'est un langage courant. Est-ce qu'on ne pourrait pas plaider que la guerre imaginaire, donc vue sur écran, est une manière, somme toute, de satisfaire une pulsion fondamentale sans aller jusqu'au passage à l'acte. Autrement dit, un côté cathartique, tout simplement. Il y a des témoignages, enfin, me semble-t-il, ethnographiques. Il y a très, très, très longtemps, j'avais dirigé une thèse sur le Mvet chez les Fang du Gabon, qui étaient de très féroces guerriers pendant très longtemps, mais une société où il était impossible, étant donné que des pouvoirs et des contre-pouvoirs, de parvenir à un pouvoir stable sur la société. Alors que dans les Mvet, ce sont des rois, si vous voulez, qui dominent. Donc il y avait une compensation dans l'imaginaire, c'était l'interprétation de l'étudiant, qui était très convaincante. Donc,
c'est certainement une dimension.
Ça me paraît mériter d'être étudié, si vous voulez, le fait d'avoir plaisir à regarder un film de guerre. J'avoue que c'est mon cas, ce n'est pas une raison pour devenir...
Les enfants, ce n'est pas n'importe quel film. Les enfants sont capables de faire la différence entre un film de fiction et un film de sauce-tomate. Les enfants font la différence entre un film de fiction sauce-tomate et des images réellement prises en réalité de gens qui meurent, comme la petite fille qui est brûlée au Vietnam qui se sauve, comme le petit Mohamed qui se fait descendre également. Il y a plusieurs images, comme la petite Mayera qui agonise. Les enfants, même tout petits, font bien la différence entre ce qui est fiction et ce qui est irréel. Ils sont très perturbés par ce qui est réel.
C'est vrai, ça, monsieur?
Je le crois. Je le crois qu'ils font vraiment la part des choses. En revanche, l'usage que vous évoquez serait un usage tout à fait positif et créatif du virtuel pour justement jouer en quelque sorte ou simuler, on a parlé de simulation tout à l'heure, simuler l'action ou simuler la guerre peut en effet être une bonne entrée, mais vous voyez que il faut bien mettre le curseur du contrôle inhibiteur par rapport à la résonance motrice. Si la résonance motrice reste ludique dans un cadre pédagogique et dans un cadre simulé, il n'y a pas déclenchement de l'action, et on en reste au niveau, je dirais, d'une boucle de simulation, ce qui vaut pour l'exercice de l'imaginaire en général, mais cela exige, au-delà de la logique et au-delà des automatismes, ce système inhibiteur qui vous fait le différentiel entre le virtuel et le réel. Ce qu'on a développé, parce qu'il y a bien d'autres questions que celle-ci dans cet avis de l'Académie des sciences sur l'autorégulation face aux écrans, où évidemment le phénomène est tout à fait potentiellement amplifié.
Oui. Juste une question toute bête. Concrètement, oui, comment on imite?
Vous voulez que je vous montre là?
Peut-être. Alors, non, mais donnez-moi une idée de la façon dont
ce que je ne peux faire que répéter la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des situations d'attrape-piège, par exemple, où on a des choses extrêmement... Vous savez, je suis instituteur, et donc, quand on est instituteur, on sait qu'il faut passer au concret quand on travaille dans une classe. Donc nous avons des situations tout à fait concrètes, papier-crayon ou sur ordinateur, avec des zones inhibitrices et des zones activatrices, et ce que vous entraînez, c'est l'autorégulation. Dans ce module de la main à la pâte que nous vous enverrons, vous avez 22 séances pratiques, dont certaines sont, par exemple, l'apprentissage à bloquer ces automatismes. Il peut s'agir d'un automatisme moteur, tourner cette fois son doigt dans sa main avant de tweeter, pour reprendre un exemple célèbre. Il peut s'agir d'un automatisme verbal. Donc, vous avez toute une gamme. Mais j'imagine que si cela vous intéresse, vous lirez toutes les publications qu'on a faites sur le sujet. Nous avons toute une gamme d'apprentissage réalisé en classe, de la maternelle au collège et au lycée même, y compris actuellement avec une équipe canadienne pour des étudiants en sciences qui apprennent l'électricité, par exemple. Vous avez des automatismes sur les schémas électriques qu'il faut absolument inhiber, bloquer, qui sont, aurait dit Bachelard, des obstacles épistémologiques à la découverte scientifique. Donc, ça se décline sur un grand nombre de situations par les professeurs des écoles, en classe, etc. Et tout cela est publié, donc je vous le communiquerai.
Oui, ça m'interroge beaucoup sur le rapport de l'enfant avec les jeux vidéo de guerre, c'est une question. Et puis l'autre question, c'est ce que vous décrivez, finalement, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui marche au sein d'un système, d'une culture donnée ? Parce que par rapport à ce que vous avez dit, M. Bechler, sur les films de guerre, moi, ce qui me frappe, par exemple, quand je regarde un film de guerre américain, et puis juste après un film de guerre soviétique, c'est que le film américain, il diabolise l'ennemi, tandis que le film soviétique, on voit bien que c'est l'ennemi, mais il n'est jamais diabolisé. C'est-à-dire jamais présenté comme cruel. Alors je me dis que pour un gamin, ça ne doit pas être si évident de lui apprendre à discriminer dès lors qu'il sort du système culturel. Et bon, je ne sais pas si...
Je n'ai absolument pas de réponse à tout sur cette question, si ce n'est de vous dire que ce que vous évoquez là, pour moi, touche au domaine de la catégorisation, c'est-à-dire qu'il y a aussi une taxinomie des acteurs, ouais, des situations, et là, les variations, on va dire, dynamiques et non linéaires, selon les cultures, selon les fictions qui sont faites, hein, ça dépend aussi de toute la question, vous l'avez peut-être traité ces deux journées, des représentations de la guerre, de la créativité.
Quelle stratégie, ça serait ?
Dans les exemples que vous donnez, ça relève de la catégorisation.
Ouais. D'accord.
Dans les exemples donnés tout à l'heure par Madame Taylor, il y avait vraiment la question du nombre. Je ne pourrais plus le dire aussi bien qu'elle l'a dit, mais avec un raisonnement sur le fait que pour maintenir la population, pour la guerre fait partie de la quantification.
De l'ordre de, comment dirais-je, je ne suis pas sûre que ça se situe au même niveau, enfin, j'en sais rien.
Moi non plus, pour tout vous dire, mais si vous parlez d'inférence, un psychologue ne peut pas ne pas penser au raisonnement.
Oui, en effet.
Une dernière
mot sur, j'ai l'impression qu'il y a quand même le poids de la culture. Je ne sais plus dans quelles années, ça devait être des années 1930 ou peut-être à peu près, peut-être 40. On a passé un film, c'était la première fois que des gens voyaient au cinéma, c'était un film américain de cow-boy, avec plein de fusils, plein de morts, plein d'hémoglobine, etc. Donc c'était en couleur. Et on l'a montré à des unites, c'était la première fois qu'ils voyaient de la violence comme ça, parce que même si c'est des sociétés très dures, les meurtres, etc., sont extrêmement rares. Et donc ils ont littéralement vomi leur trip quand ils ont vu ça, c'est-à-dire ça a provoqué un choc culturel. Donc je veux dire, c'est que tous ces systèmes là on peut se poser la question de la variation culturelle, parce que évidemment, même un gamin voit un film de cow-boy, ça va pas le traumatiser, même si ça peut être traumatisant.
Les deux ans, ils sont blasés.
Voilà, ils sont blasés. Mais là, vous voyez ce que je veux dire. Alors maintenant, évidemment, ils en voient, il n'y a pas de problème, puisque bon, ils se sont américanisés ou occidentalisés, ce qu'on veut. Mais il y a quand même, je ne suis pas sûre que même les Givaro verraient, enfin, à une époque où ils n'avaient pas eu de contact avec l'Occident, je pense que l'Occident est extrêmement violent pour des civilisations qui, a priori, sont présentées comme primitives et violentes. Et le spectacle de la violence, c'est aussi la réception, c'est fonction de la culture. Je ne suis pas sûre que l'inhibition...
Oui, mais ça, vous avez une réponse facile. Les stratégies sont humaines, et comme il y en a plusieurs, on peut mettre l'accent plutôt sur l'une que sur l'autre.
Je raisonnerai comme vous. Ce qu'il y a de nouveau, en effet, c'est l'exposition aux images. Et je suis sollicité actuellement de façon régulière par le CSA qui se préoccupe vraiment de ces questions. L'exposition aux images de guerre, aux images violentes en général, est vraiment intense. Et comme vous le dites, il y a sans doute un différentiel entre ce qu'on accepte d'une image que l'on présente, qui arrive dans l'intimité d'une maison, d'un salon, par exemple, et ce qui peut être la violence dans une culture... par ailleurs, et ce statut de l'image ou ce que l'on permet de montrer, alors sur Internet, c'est pas contrôlable. En revanche, par exemple, le CSA a une responsabilité à cet égard. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font, qui vont se faire sur l'éducation aux médias, et il y a non seulement l'image, mais le fait qu'on accepte que cette image soit diffusée. Et ça, c'est sans doute un phénomène d'exposition face à ça qui est très grand, mais qui renforce des mécanismes très anciens du cerveau qui sont ceux évoqués tout à l'heure de résonance motrice. Et on comprend que face à ça, ce contrôle inhibiteur dont je vous parle devient absolument une prise de recul. Essentielle et qui est une protection par rapport à cette exposition intense, qui peut aussi être très positive sur d'autres aspects, bien sûr. Là, on évoque un phénomène grave, mais je pourrais vous parler de ces mêmes questions pour l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage du calcul, où au contraire, ces mécanismes créent une dynamique extrêmement positive.
Comment dire, il ne faut jamais oublier que la guerre n'est pas un phénomène européen, mais que l'Europe a tout particulièrement cultivé la guerre pour des raisons compréhensibles qui n'ont pas grand-chose à voir ni avec l'imaginaire, ni avec les conceptions du monde, mais simplement aux structures politiques, hein, les systèmes de cités, l'Empire romain, l'absence d'un empire européen, donc toute une série de circonstances sur des millénaires. Font que nous sommes de loin la civilisation la plus guerrière et la plus violente. Et la première fois que des Chinois, des Mandarins sont entrés en contact avec l'Occident, ils ont été complètement horrifiés. Mais qu'est-ce que c'est que cette société où on passe son temps à faire la guerre, alors que la Pax Sinica était imposée depuis moins de 221. Alors, de temps en temps, ça craque, mais pour l'essentiel. Et alors, ils ont été encore plus stupéfaits lorsqu'ils ont, sont entrés en contact avec le christianisme, une religion de l'amour. C'est, mais qu'est-ce que c'est que cette société, enfin, où on fait la guerre et en se réclamant enfin, d'une religion de l'amour et de la paix. Ils n'ont pas compris. Enfin, voilà, c'est un problème réel. Enfin, je veux dire, un problème sociologique.
Voilà. Ce qui fait que la linéarité imaginée par rapport à la guerre ou au progrès des valeurs humaines est sans doute une pure fiction. Et mon hypothèse, c'est que dans ces questions-là que vous évoquez, civilisationnelles ou historiques, tout porte à croire que ce côté dynamique et non linéaire caractérise les histoires.
Ils sont rattrapés depuis.
Généralement, je ne dis pas que le phénomène de la guerre est un phénomène européen, mais qu'on l'a cultivé avec une énergie toute particulière. Enfin, on peut remonter au troisième millénaire avant l'ère avec l'indo-européanisation de l'Europe, enfin, et puis ça n'a pas cessé depuis. Je répète, pour des raisons qui, pour moi, sont essentiellement morphologiques et politiques, enfin, et que c'est à la base, c'est l'absence et l'impossibilité de construire par la guerre un empire européen. Pour moi, c'est l'essentiel. Vous direz, il y a l'Empire romain. Oui, non, mais c'est une aberration historique. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Mais une aberration donc, qui reposait sur la guerre. Et l'Empire romain a passé son temps à faire la guerre, alors que l'Empire chinois, non, une fois l'Empire en place, la guerre n'a pas disparu, bien entendu, mais ça n'était plus un phénomène dominant. Oui, non, mais il y avait de temps en temps des invasions de tribus, quoi, bien entendu. Il y a les Mandchous, etc.
Une question que je vous poserai sur cette analyse, est-ce qu'à votre avis, c'est à un moment donné une question de différentiel de raisonnement politique ?
de raisonnement. Que qu'entendez-vous par raisonnement politique? Disons, toute façon, comment dire, les conceptions politiques chinoises sont foncièrement différentes des conceptions européennes, en ce sens qu'ils ont vécu pendant des millénaires en exploitant un seul modèle politique que j'appelle hiérocratique. Alors, bon, je peux vous faire un cours là-dessus. C'est-à-dire un système où le détenteur du pouvoir se présente et est reçu comme un vicaire d'un principe supérieur, dont résulte un double contrat entre ce principe supérieur, ils appelaient ça le ciel, Tien, c'est vrai, bon, la dynastie. La dynastie reçoit sa légitimité, parce qu'au départ, elle a pris le pouvoir par la force, et le principe supérieur, eh bien, bénéficie de, comment dire, de toute une série de bénédictions, de mobilisation de richesses à son service pour le glorifier, et ainsi de suite. Du côté du peuple, il y a un contrat très simple. Vous obéissez et vous payez vos impôts. Éventuellement, vous allez à la guerre si on en a besoin. En échange, on vous promet la paix, la justice, la prospérité et la sécurité. Et ça marche un certain temps, en général 3 siècles à peu près. Et lorsque ça ne marche plus, lorsque la justice, la paix, etc. ne sont plus garanties, le peuple a le droit, et dans une certaine mesure, le devoir de se soulever. Et vous avez alors là des catastrophes épouvantables entre deux dynasties. Et le dernier épisode en date de ce mécanisme, c'est les Taiping, par exemple, enfin, à partir de 1840, et ça se termine en 1949, avec la prise du pouvoir. Ils ont trouvé la plus mauvaise solution possible. Enfin, bon, ça, c'est autre chose. Non, je suis désolé, là, on dévie complètement. Enfin, mais ce sont tout de même, c'est les cadres, enfin, comment dire, macro-historiques et macro-sociaux qui permettent tout de même de comprendre des choses qui se passent à l'intérieur. Enfin, bon. C'est
Président.
C'est
oui, non.
Est-ce que vous avez des informations sur des gens qui avaient développé des stratégies cognitives par le biais des écrans, des films, des jeux vidéo, et qui se sont révélées complètement non appropriées au contact de la véritable guerre, mais qui ont conduit à des déséquilibres, peut-être, ou des pathologies, ou une inaptitude à combattre?
Très franchement, je n'en connais pas. Vous savez que par rapport à cette question des écrans, le recul est extrêmement court. Et à ma connaissance, il y a beaucoup d'études sur l'impact positif ou négatif des écrans sur le développement cognitif, sur la mémoire. Mais il n'y a pas encore eu d'observation sur une population qui aurait été ou non impliquée dans la guerre. Alors, on peut imaginer qu'il y a des tas de pistes, bien évidemment, à explorer.
Je vous laisse conclure. Quand même.
Non, c'est vous qui présidez. Oui, non, mais je n'aime pas conclure, je n'aime surtout pas conclure parce que en disant merci à tous pour être venus et pour nous avoir fait bénéficier les uns aux autres de vos savoirs respectifs. Mais pas de conclusion au sens de tout est bouclé, tout est clos, nous avons les réponses à toutes les questions. Je pense que ce genre de réunion, qui, je dois le dire, a été très agréable ces 2 jours, on valent surtout par les questions soulevées dans la tête de chacun. J'aime beaucoup l'image du silex, si vous voulez, enseigner ou discuter ou organiser des séminaires consiste à frapper un silex contre un autre. Le silex, un silex est celui qui parle, et les autres silex sont ceux qui écoutent. Alors c'est alternatif. Alors, la plupart du temps, les étincelles ne mettent le feu à rien, mais de temps en temps, dire « Tiens, je n'avais pas pensé à ça ». Et c'est ça qui est important et qui peut déboucher sur des développements, et je le dirais à n'importe quel âge. C'est pourquoi je suis très heureux que ce soit retrouvé ici quelqu'un de très jeune et quelqu'un d'un peu moins jeune que lui. Enfin, nous sommes tout de même du même côté tous les deux. Et donc on apprend à tous les âges, et surtout, c'est pas apprendre, ça, c'est évident, mais on peut avoir des idées nouvelles à tous les âges, et c'est l'objet de ces réunions organisée dans le cadre de l'Académie des sciences morales et politiques. Voilà. Oui, parce qu'on est décentré. Si vous voulez, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Quoi. Et bon. Voilà. Merci à tous.